Une vie, une œuvre. Bonjour à tous. Cette semaine, Yorgos Archimandritis et Anne Pérez Franchini vous offrent le portrait de Jeanne Moreau. Actrice, chanteuse et réalisatrice française, elle nous a envoûtés dans Jules et Jim, Ascenseur pour échafaud ou encore La mariée était en noir. Elle qui tourna dans plus de 130 films sous la direction des plus grands réalisateurs comme Orson Welles ou François Truffaut. Née le 23 janvier 1928 à Paris, elle nous quitte à 89 ans le 31 juillet 2017. Elle fut la première femme élue à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. En 1992, elle obtient le César de la meilleure actrice pour La vieille qui marchait dans la mer, suivi de deux Césars d'honneur en 1995 et en 2008. En 1998, l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma lui décernera un Oscar d'honneur.
Moi, je compare ma vie à un terrain dont j'ai hérité. Il y a des gens qui vont hériter d'un terrain magnifique au bord de la mer, avec des roses, des magnolias, du mimosa, tout ce que tu veux. Puis il y a des gens qui ont un terrain, il va falloir enlever toutes les pierres. Là, il y a beaucoup d'ombre, on peut planter ces plantes-là, pas d'autres. Donc il faut apprendre la terre qu'on a à cultiver. Moi, ce que j'espère, c'est à la fin de ma vie, laisser un beau jardin. Le destin, c'est ça. C'est le morceau de jardin qu'on vous a donné. Et il y a des gens qui ont des jardins magnifiques et qui ne s'en occupent pas. Puis d'autres qui auront un bout de terre difficile et tout, et qui va être un paradis.
17, noir impérément.
Cette fille me plaît. Elle veut être libre. Elle invente sa vie à chaque instant.
Qu'est-ce que tu vas jouer, messieurs ?
J'étais amoureuse de Napoléon. Je rêvais que je le rencontrais dans un ascenseur. Il me faisait un enfant et je ne le revoyais jamais. Pauvre Napoléon. On m'avait appris, petite fille, notre père qui est aux cieux. Et moi, j'avais compris notre père qui quête aux cieux. J'imaginais mon père déguisé en bedeau barbu, faisant la quête devant le paradis. En principe, je viens de raconter une chose drôle. En tout cas, amusante. Vous pourriez, je ne sais pas moi, sourire. Oh là là, là là.
Jeanne Moreau, l'unique. Jean-Claude Moirot, d'où vient Jeanne Moreau?
Jeanne est née, comme elle ne me l'a jamais caché, en 1928, au mois de janvier, de parents de deux nationalités différentes, puisque sa maman était anglaise. Était danseuse dans une troupe qui s'appelait les Tiller Girls à Paris, se produisait avec Josephine Baker notamment. Et son père était restaurateur à Paris. Souvent, elle disait que c'était pas une rencontre programmée, c'était comme ça. Donc, son enfance parisienne, bien sûr, hein, c'était dans le quartier Montmartre, Pigalle, mais aussi une enfant de la campagne. Elle allait dans le Puy de Dôme, chez une cousine éloignée de son père, qu'elle appelait sa mémé, c'était pas sa grand-mère, mais c'était vraiment une cousine éloignée, qui tenait une auberge. Et c'est vraiment une personne qu'elle aura portée dans son cœur toute sa vie, qui l'a beaucoup marqué, son besoin d'harmonie et de faire les choses du mieux possible. C'était vraiment l'amour du travail bien fait, exécuté. Le besoin d'ordre aussi, le besoin, la discipline. Et ça l'a conduite beaucoup vers des personnalités qu'elle disait ou que les gens jugeaient sévères. C'est-à-dire qu'elle allait où il y avait, non pas une difficulté, mais pas la facilité. Jamais d'à peu près non plus. Il faut faire les choses à fond et bien, du mieux possible.
Que voulez-vous savoir?
Rien, je veux vous écouter.
Pour me juger?
Tu m'en gardes.
Je ne veux rien vous dire. Je veux vous questionner.
Soit.
Ma question sera, racontez-vous, Jim.
Bien, mais quoi?
Peu importe, racontez. Droit devant vous, Jim.
J'ai tout appris à travers les livres. Parce que dans l'éducation, la famille, où on ne parle pas, où on ne révèle rien, où on a conscience qu'il y a des rapports très complexes avec les adultes, ben, c'était un voyage extraordinaire. Et je dis toujours qu'à tout jeune cinéaste, tout jeune acteur ou actrice, il faut avoir lu l'Iliade et l'Odyssée. On sait tout. Ça et l'Ancien Testament, c'est la base même. Les poètes sont des voyants, entre guillemets. Ils savent traduire des choses qu'on va expérimenter plus tard dans la vie, pas seulement sa vie personnelle, mais la vie du monde, les transformations. Moi, j'ai su lire et écrire très très tôt. Je savais lire, j'avais 4 ans. J'ai toujours eu cette avidité, cette curiosité de savoir. Vous savez, quand il y a une discussion entre adultes, on vous dit « maintenant, tu vas avoir l'obligeance de sortir, donc on n'a pas le droit. » Donc on a envie de tendre l'oreille, on a envie de comprendre, on a envie de... Et j'étais une enfant unique, très tard, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ma sœur est née, j'allais avoir 10 ans. Et j'avais une vie de rêverie, de réflexion. Moi, j'ai commencé par lire tout ce qu'on me donnait, enfin, parce que j'avais un oncle qui connaissait cette avidité. Et j'avais des petits camarades, ma mère avait des amis, dont les parents avaient des bibliothèques. Et là, j'ai commencé à emprunter, entre guillemets, des livres. Et j'ai commencé par des livres que je n'aurais pas dû lire, mais Émile Zola, par exemple, un livre qui s'appelle « La faute de l'abbé Mouret », et qui est une relation entre une jeune fille et un prêtre, dans un jardin du presbytère, qui s'appelle le Paradou, qui veut dire le paradis. Et donc, j'ai tout appris comme ça, seule.
J'avais 15 ans, j'étais danseuse étoile. Regardez. Ensuite, j'ai fait de la comédie. J'ai joué les classiques. Molière, Hervieux, Sardou. Au théâtre, on se maquille beaucoup à cause du trac. Avec le fond de teint, on a moins peur.
Peur de quoi?
Du public, des hommes qui vous regardent.
Moi, j'aurais pas peur des hommes. Vous verrez.
Vous les connaissez?
Bien sûr que non.
Mais je voulais être danseuse d'abord. J'ai fait beaucoup de danse classique, puis quand mon oncle est mort, il a fallu interrompre pour des questions de... Mon père a eu des gros ennuis d'argent. Donc j'ai dû y renoncer, puis c'est en voyant une représentation théâtrale, un personnage mythique qui est Antigone, que je me suis identifié, que je me suis dit que c'était ça.
Quand on sait qu'il s'agit de l'Antigone d'Anouilh, elle a été complètement bouleversée. Il y avait une identification certainement, en tout cas c'est ce qu'il y a déclenché en elle, le désir d'être... là, dans la lumière, sur la scène, d'être comédienne.
Mais c'était pas m'exposer, c'était incarner la révolte, incarner la rébellion, incarner la soumission. Ça a toujours été ma nature.
À 14, 15, 16 ans, Jeanne avait commencé à Avignon. Ça s'appelait pas encore festival au début. Enfin, il y avait déjà Jean Villard, bien sûr. Et c'était en 1947, donc elle n'avait pas 20 ans. Et en même temps, il y a eu la Comédie française, les premières demandes, un mois à la campagne de Tourguenieff.
Elle avait été trouvée Denis Dinès, qui était un grand professeur au théâtre français.
Gilles Jacob.
Et il l'avait prise tout de suite, et même, je crois, qu'il ne la faisait pas payer. Ce qui est quand même rarissime. Il avait senti, évidemment, quelqu'un. Puis elle a suivi en même temps le cours de Meyer. Donc elle avait deux professeurs. Puis après, c'est parti, elle a commencé à enchaîner les pièces. Dans les années 50, mes parents habitaient dans le même immeuble que Simone Berriot. Simone Berriot, c'était la directrice du Théâtre Antoine. Et en 1953, elle donnait L'heure éblouissante avec Jeanne Moreau et Suzanne Flon. Et ce qui s'est passé, c'est que Suzanne Flon est tombée malade, je pense même le lendemain de la Générale. Et Simone Berriot a eu l'idée géniale de proposer à Jeanne Moreau, qui était toute jeune comédienne de théâtre, de jouer les deux rôles, ce qui était possible parce que dans la pièce L'heure éblouissante, elle ne se rencontre jamais. C'était une prouesse de changer de perruque, de maquillage, ça a été un événement. Et donc, c'est la première fois où j'ai vu Jeanne Moreau dans un double rôle, en plus. Je la connaissais pas. Et je veux dire qu'elle était éblouissante, c'est le mot. Et je crois qu'elle est restée un an à l'affiche. Et donc, elle a dû faire 400 ou 500 représentations à 20 ans, 22 ans.
Jouer, disait-elle, ce n'est pas un métier, c'est un mode de vie. L'art dramatique est devenu sa vie. Ouais. Est-ce que ses parents ont approuvé ce choix ?
Du côté de sa mère, il y avait un accord tacite bienveillant, mais son père, c'était l'opposition absolue, farouche. Donc elle s'est construite, elle a construite son destin de comédienne contre l'opposition de son père. Mais, en même temps, elle avait retourné la chose, c'est-à-dire elle disait que ça avait été une chance, cette opposition de son père, parce que ça lui avait permis justement d'aller contre et d'aller plus loin, plus haut. Elle était vraiment convaincue que dans la vie, il faut se servir de tout ce qui arrive.
Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qu'aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. D'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil au coin du feu où me laisser glisser à deux. Avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes. Aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime.
J'ai toujours su. Toujours, ces dernières années. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, je me suis toujours rappelé que tout, tout peut arriver.
Et le cinéma, quand est-ce qu'il la découvre ?
Ah, très vite. C'est-à-dire, elle est aux Français depuis quelques mois. Elle tourne son premier film en 1948, donc à tout juste 20 ans. C'est un film d'un cinéaste qui s'appelait Jean Stély, qui avait réalisé notamment un mélo avec Gaby Morlaix, Le Voile Bleu, qui avait été un très grand succès. Donc très vite, pendant ces 4 années de comédie française, il y a eu 4 films.
Les films, c'était des films noirs, des films souvent des rôles de petites prostituées, de petites bonnes, de femmes fatales, les films noirs.
Elle était un peu la reine des polars de l'époque, des films noirs. Alors elle changeait de partenaire, il y avait Philippe Lemaire, Daniel Gélin, une fois c'était Reggiani, une autre fois, etc. Donc c'était des films presque de série. Mais de temps en temps, il y avait quelque chose qui sortait du lot, notamment le film de Becker, Touché par Grisby, où elle avait comme partenaire principal Jean Gabin, qui lui donnait une fameuse gifle restée célèbre.
Max,
de quoi ?
J'ai plus rien de temps.
Majesté.
D'où sortez-vous, monsieur, pour vous promener au Louvre, une épée à la main ?
J'arrive de Navarre, porteur d'un message pour le roi Henri.
Venez, suivez-moi. Je vais prévenir le roi. Eh bien, à quoi pensez-vous ?
Je ne pense pas. J'admire.
Il paraît que l'on est galant en Navarre.
Et puis, il y a eu La Reine Margot, premier film en couleur, film de cap et d'épée, costume, etc., où elle avait le grand rôle.
C'est avec Ascenseur pour l'échafaud qu'elle a atteint la gloire.
Oui, c'est quand elle jouait la pièce de Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant, que Peter Brook mettait en scène, que Roger Nimier et le prince Murat, le producteur, sont allés la voir dans sa loge.
Un jour, en coulisses, se sont présentés deux hommes très très grands, qui m'ont dit qu'ils étaient producteurs et qu'ils représentaient un réalisateur, Louis Malle, qui voulait faire son premier film, et qui m'ont dit que Louis Malle voulait me rencontrer. Et je me souviens de ce jour, bon, je m'en serais souvenu n'importe comment, mais comme je suis très sensible aux symboles, il faisait une journée magnifique et tout d'un coup, le ciel s'est couvert et il y avait un orage, une violence incroyable. Et le rendez-vous était à la closerie des Lilas. Et là, j'avais les cheveux très longs, naturellement, je m'étais coiffée, tout ça. Je suis arrivée trempée, comme si je sortais de l'eau. Et ça m'avait frappé, cette rencontre, comme ça, au milieu d'un orage. Ça allait tout à fait, nos relations qui ont été très fortes et très passionnées.
Embrasse-moi. Je t'attendrai à la terrasse du Royal Camé, comme d'habitude. Quand tout sera fini, tu prendras ta grosse voiture, tu t'arrêteras en face. Je monterai à côté de toi et nous serons libres.
Je crois que Louis Malle a vraiment filmé Jeanne. Il y a de longs plans sur son visage, débarbouillé, comme elle disait, parce qu'auparavant, il y avait surtout des films tournés en studio, donc de la même manière qu'on reprenait les mêmes décors, souvent les mêmes intrigues, des intrigues voisines. Bon, bah, les maquillages, c'était quand même la grosse artillerie aussi. C'est vrai qu'il fallait, par rapport aux lumières qui étaient utilisées, il fallait un certain type de maquillage. Et là, Jeanne qui disait, quand je me regardais dans la glace, je me faisais l'effet d'un sorcier bariolé à l'époque des films tournés en studio. C'était un maquillage souvent outrancier. On mettait du rouge, on remettait du bleu ailleurs, etc. pour ces films en noir et blanc. Et un cinéaste comme Julien Duvivier lui avait dit, je sais pas dans quel terme il lui avait dit, mais ma petite, ce sera pas facile pour toi parce que difficilement photographiable. Il y avait une dissymétrie dans son visage, etc. Mais elle a fait de tous ses caractères vraiment une force.
C'est une femme qui a une sensualité apparente, extrême, une bouche très bien dessinée, mais qui tombe un peu, les lèvres tombent un peu, les yeux tombent un peu, mais qui a un magnétisme, une sensibilité, un regard sombre et qui vous déshabille. Elle voit tout en une seconde.
Venez, tu vois. Partons à la recherche du dernier signe de civilisation. Un morceau de Hutchinson.
C'est une beauté...
Yasmina Reza.
Coquine, enfantine, et en même temps chaude et froide. C'est la bouche surtout qui est incroyable. C'est une bouche qui raconte quelque chose. C'est une des femmes les plus séduisantes et les plus sexy qu'on a jamais vues sur un écran, selon moi.
Une boîte, attention derrière.
En quoi consistait cette séduction, ce pouvoir de séduction de Jeanne Moreau?
Ben, son rire, l'extraordinaire distorsion entre le visage fermé, le côté sexy, boudeur ou fermé, et le rire. Quand elle rit, c'est une enfant de 12 ans avec un éclat que, franchement, j'ai jamais vu ailleurs. Tout riait. Les yeux, la bouche, le corps, et un éclat tout à fait rare. Et moi, je pense que la séduction, d'une façon générale, elle vient de la contradiction. Les visages lisses, les choses lisses ou trop parfaites n'ont pas de séduction, parce qu'on s'ennuie très très vite. Alors que quand il y a de la contradiction, des éléments qui se rencontrent et qui sont pas habituellement liés, ça donne un mystère aussi. Elle était très mystérieuse.
Puis vient le scandale des amants.
Les amants, c'est vraiment dans la droite ligne d'Ascenseur pour l'échafaud, puisqu'il s'agit du même cinéaste, Louis Malle, qui y a eu une histoire d'amour très, très forte entre eux.
Je n'ai connu que toi.
Et les amants, je dirais que par rapport à Ascenseur pour l'échafaud, qui était, comme on le disait à l'époque, un ascenseur pour la gloire, c'est-à-dire elle est vraiment vedette au cinéma, tout en continuant le théâtre, bien sûr, Les Amants, c'est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que ça va lui apporter une renommée internationale. Les Amants fait de Jeanne Moreau une star. Parce que le retentissement du film est immense. Le scandale a été là aussi. Hein. Et quand elle voyait son nom en grosses lettres... aux entrées des grands cinémas parisiens, tout, il y avait de quoi être quand même retourné. Souvent, elle a dit que bon, l'échec n'est pas facile à vivre, mais le succès est parfois extrêmement difficile à vivre. Quoi faire après? Comment? Faut pas se tromper, c'est lourd à porter. Donc, le succès des Amants, le prix à Venise, tout ça, c'était énorme.
Tu dors? Je vais m'habiller.
Truffaut écrivait dans les cahiers du cinéma que Louis Malle filme la première nuit d'amour du cinéma avec ce film.
C'est vrai, quand on le voit aujourd'hui, les gens qui le découvrent, les jeunes, pourraient penser que bon... Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque, les années 50 quand même assez pudibondes, corsetées, on est encore dans la période de reconstruction de la guerre, donc là tout d'un coup de voir cette nuit d'amour qui est très romantique, en même temps les dialogues étaient de Louise de Villemorin, ça avait un côté très classique, les amants, la musique de Brahms, bon, le clair de lune, tout ça, mais on allait quand même plus loin avec cette nuit d'amour, et puis aussi quand même, ce qui est le fond même du sujet, c'est quand même une femme bourgeoise de province, dont le mari est imprimeur, etc. Elle vient à Paris de temps en temps, des sorties un peu, et qui va quitter tout, c'est-à-dire sa maison, son mari, son enfant, pour partir avec un inconnu. C'est ça la fin du film. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'elle continuera ou est-ce qu'elle fera marche arrière? On ne sait pas, ça reste complètement ouvert. Au moment où elle se regarde dans le miroir, il y a quelque chose qui passe, une interrogation. Mais quand même, je pense que c'est aussi pour ça que le film a scandalisé, enfin en tout cas a remué les esprits et fait avancer, on dirait aujourd'hui, le curseur quoi, vers autre chose.
Il partait pour un long voyage dont il connaissait les incertitudes. Ils ne savaient pas s'ils retrouveraient le bonheur de leur première nuit. Déjà, à l'heure dangereuse du petit matin, Jeanne avait douté d'elle. Elle avait peur, mais elle ne regrettait rien.
J'ai tourné des grands films à une époque où les cinéastes les plus exceptionnels avaient envie de comprendre ce que c'était qu'une femme. Et tous les personnages qui m'ont été proposés étaient toujours des rebelles. Allô?
What do you think I've been doing all the time? I've won money gambling. You even led me to a couple of clients.
Eve gives Jeanne Moreau the opportunity to play an infernal game at the borderline of human passion.
Que ce soit dans Jules et Jim, que ce soit dans Eva, que ce soit dans... Et l'insatisfaction dans la note et des femmes qui cherchent à émerger, à exister en dehors du couple. Déjà, c'était une révolution. Maintenant, on s'en fout. Les histoires d'amour, les histoires entre un homme et une femme, on y revient, mais le cinéma est vraiment notre miroir, nous. Et c'est pourquoi c'est un art majeur, parce qu'il nous permet de découvrir toutes les cultures du monde entier. Toute la façon, il devrait amener à une acceptation, à une compréhension de l'autre.
Qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai juré de continuer la révolution.
La révolution? Tu es folle.
Peut-être. Et comment? Avec qui?
Avec eux.
Mais réfléchis! Ils n'y connaissent rien, toi non plus.
Il faut que je tienne ma parole.
Ne compte pas sur moi.
Et à la fin des années 50, 58, 59, 60, tout ça, l'autre grande actrice de l'époque, c'était quand même Brigitte Bardot. Et c'était dans l'air du temps, cette libération, cette émancipation un peu de la femme dans ce monde. C'était deux femmes qui apparaissaient comme des, j'allais dire entre guillemets, mais conquérantes quand même par rapport aux hommes. Donc, j'allais dire que Jeanne, elle les a mordues à pleines dents les années 60. Elle était vraiment une des figures majeures de cette époque, avec Brigitte Bardot, comme je le disais. Et c'est vrai que la concrétisation de Viva Maria, qui est un peu à part dans son trajet d'actrice, c'est vraiment un reflet de tout ça. C'était quand même les deux grandes stars internationales du moment qui se retrouvent face à face dans un film tourné au Mexique par un cinéaste qui a... eu déjà de grands succès, Louis Malle, un film qui tient à la fois du western, de la comédie, du film musical, etc. Viva Maria était quand même a fait couler beaucoup beaucoup d'encre à l'époque. Le tournage a duré longtemps. Il y avait des journalistes du monde entier qui venaient sur le plateau, donc il y avait une pression qui était entretenue. C'était inouï. Je crois que c'est très difficile d'imaginer ce que ça a été. Pendant le tournage et après, au moment de la sortie, c'était quand même un très très grand succès populaire.
Maria y Maria, dos, la révolution,
danse.
De deux choses l'une, deux jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une.
Quels sont ses rapports avec les réalisateurs ?
Je dirais que souvent, en tout cas dans cette période magnifique des années 60, elle choisissait autant, sinon plus, les cinéastes que les films. Et ça, c'est pas si fréquent que ça. Il y avait vraiment des liens très très forts avec tous les gens qui l'ont choisi comme interprète à cette époque-là, que ce soit Orson Welles, elle n'a pas fait des rôles à part Une histoire immortelle, qui est un film au départ fait pour la télévision, mais dans Le procès, ou sont des rôles qui ne tiennent pas tout le film, mais c'est très très fort. Et ils se revoyaient, il y avait une amitié très profonde. Avec Buñuel, pareil, journal d'une femme de chambre... Buñuel, elle l'appelait c'était son père espagnol. Il y avait une grande complicité, une grande amitié, des fous rires, et puis une sorte d'entente tacite, oui, c'est très chargé en désir, en perfection et en liberté, et la vie aussi. Leur première rencontre, enfin, je crois que c'était autour d'une table avec des frites, du vin rouge et tout. Et Buñuel avait été fasciné par elle parce qu'il n'imaginait pas, enfin, ça correspondait pas à l'idée qu'ils étaient faits des stars. Donc, très tôt, je pense, assez vite, on disait Jeanne, oui, star et anti-star en même temps, parce qu'elle n'aime pas les étiquettes non plus. C'est la vie qui prime, c'est une grande amoureuse de la vie, une gourmande de la vie. Enfin, elle est gourmande dans tous les sens du terme. C'est le plaisir de la découverte, c'est ne pas avoir perdu l'enfance aussi.
La première fois que je vous ai vu, c'est à la fin du mois de mai l'année dernière. Vous donnez une réception au personnel des usines, comme chaque année. Vous nous regardiez avec amabilité et indifférence. Vous étiez accoudé à un grand piano. Vous aviez une robe noire et entre vos seins, il y avait une fleur de magnolia.
Moi, Jeanne Moreau, je l'ai vue d'abord dans les actualités de Cannes, en noir et blanc d'époque, ou les émissions de François Chalet. Et c'était une petite starlette qui jouait au ballon sur la plage avec Michel Morgan et d'autres. Ça, c'est les deux plus grandes... qui vont devenir les plus grandes, mais il y avait des petites starlettes qui sont restées des petites starlettes. Et pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un du théâtre que Favre Lebray, mon prédécesseur, avait invité à Cannes parce que ça faisait bien sur les photos. Elles se prêtaient au jeu, mais elles n'étaient pas dupes. Et elles ne voulaient pas du tout faire ça. Jouer au ballon sur la plage, Jeanne Moreau, c'était pas son truc. Après, elle est venue avec des films, et elle est venue notamment en compétition avec... Moderato Cantabile, Peter Brook, qu'elle avait déjà connu au théâtre, donc elle savait très bien, et lui la connaissait très bien, et elle a eu le prix d'interprétation féminine.
Vous regardiez dans le parc, vous attendiez que nous partions. Vous n'arrêtiez pas de froisser cette fleur de magnolia. Je m'appelle Chauvin.
Il faut que je rentre.
Donc ça a été le début... d'une carrière qui mélangeait un cinéma populaire, parce que c'est quelqu'un qui vient des milieux populaires, c'est pas une bourgeoise, Jeanne Moreau. Et donc, cinéma populaire, mais cinéma d'auteur. Et à Cannes, elle a tout fait, absolument tout. Elle a donc été starlette, elle a été en compétition, elle a gagné un prix, elle a été au jury, elle a été présidente du jury deux fois. Elle a présenté les cérémonies. Elle m'a aidé énormément, par exemple, pour l'hommage à François Truffaut. Et je me disais, comment je vais faire pour rassembler tous les gens, toutes les comédiennes, toutes les femmes de Truffaut. Et j'ai eu l'idée d'appeler Jeanne. Et je lui ai dit, écoutez, Jeanne, faut m'aider. Immédiatement, elle a dit, mais je suis à votre disposition. Et elle a téléphoné elle-même à des gens qui ne seraient pas venus. Je pense à Catherine Deneuve, par exemple. Ou à d'autres. Elle a même réconcilié des gens qui ne se parlaient plus. Et elle a amené là non seulement les femmes, mais les hommes, mais les producteurs, mais les... tout. On fait cet événement, autre grand moment, le 50e anniversaire. Et là, je lui avais demandé d'être la maîtresse de cérémonie. Alors, il faut savoir une chose avec Jeanne, c'est que il ne faut pas discuter, parce qu'on perd son temps. De toute façon, c'est elle qui va gagner. C'est une femme très intelligente, très fine, culture énorme, mais qui sait exactement ce qu'elle veut et qui ne va pas en démordre. Alors, elle a son merveilleux sourire. Je prends un exemple, une petite parenthèse, j'adore les digressions. On arrive à l'hôtel Martinez, où elle devait avoir une suite, et en une seconde, on lui montre la suite qui était parfaite. Je sens quelque chose. Et en une seconde, je comprends qu'elle-même a compris que ce n'était pas la première suite de l'hôtel, mais la deuxième. Elle voulait la première. Donc elle se retourne, elle dit « c'est merveilleux », puis elle a un regard comme ça, elle dit « c'est merveilleux, mais où voulez-vous que je mette mes affaires ?» Le type a compris, on lui a donné la plus belle suite. Alors elle est arrivée, elle était dans une jaquette d'arlequin au carreau multicolore, avec les pans qui pendaient, c'est sublime. Elle arrive sur le parvis, elle traverse ça comme elle a toujours fait, parce qu'elle a présenté des cérémonies, elle a remis des prix, elle a remis des palmes. Enfin, Jeanne, ça a été pour Cannes un accompagnement sublime, car c'était Madame Cannes. Après, elle est venue avec, que ce soit les films de Lozay, des films d'Antonioni, des films de Angelopoulos, Le pas suspendu de la cigogne. Enfin, elle est venue 50 fois. C'était Jeanne.
Il y a eu, dans sa carrière, des périodes de repli.
Oui, des périodes où elle était vraiment dans la lumière, soit au théâtre, au cinéma, ailleurs, dans la lumière, puis d'autres de repli. Mais c'est parce qu'elle avait besoin aussi de ces périodes-là. On ne peut pas être toujours dans l'action. Elle parlait souvent de ces périodes qu'elle appelait de gestation. C'est pas parce qu'il se passe rien en apparence que rien ne se passe. Il y a des choses de l'intérieur qu'il faut cultiver, qu'il faut laisser venir, qui travaillent aussi, qui préparent le futur. Et ça, il y tenait beaucoup. Sa grande amie Florence Malraux me disait qu'elle faisait tellement les choses à fond, Jeanne, que pendant les périodes de dépression, ça pouvait aller jusqu'à rester chez soi, au lit, fermer les volets, etc. Et puis aller jusqu'au fond pour justement ressortir un peu, que ça remonte. Voilà, on l'a souvent comparé au phénix qui renaît de ses cendres. Ces périodes-là, qui sont moins solaires, ça a été propice par exemple à la période où elle s'est mise à écrire les textes de ses chansons. Après avoir enregistré plusieurs albums, des textes de Redzvani, alias Basiak, elle en vient à écrire elle-même ses textes. Après l'album Les chansons de Clarisse, qui date de 68-69, elle écrit un album entier, Jeanne chante Jeanne.
Où est là, précisément, sous mon oreille, il bat obstinément, quelle merveille, ton cœur.
Donc, on passe à autre chose déjà ici. Mais aussi parce que les années sont passées. On tourne la page, les 10 grandes années cinématographiques, stars internationales. Je ne vais pas dire que ça n'existe plus, mais il y a aussi une curiosité pour un ailleurs et une autre qualité de travail différente, plus tournée vers l'intérieur. C'est l'époque où elle va accepter, aussi parce que le cinéma a changé. Hein. Dans les années 70, on tourne des films parfois avec des bouts de ficelle. Hein. Mais ce sont des aventures. Faut pas perdre de vue jamais le côté aventurier de Jeanne. En l'année 1973, par exemple, elle enchaîne un film au Brésil, film de Carlos Diegues, Jeanne la Française, avec une chanson très belle, etc. Et un film en plein Québec, bon, dans la même année, un film qui n'est jamais sorti en France d'ailleurs, Je t'aime. Il y a cette curiosité. Elle dit oui à des propositions de films émanant de jeunes cinéastes qui ne sont pas connus, mais là aussi, quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue en ce qui concerne Jeanne, c'est son goût, son attirance, elle aime la jeunesse. Parce que la jeunesse est avide de découvertes, d'aventures, et qu'elle a gardé ça en elle. Donc elle dit oui à Guy Gilles, elle dit oui à Bertrand Blier pour Les Valseuses. André Téchiné aussi, il avait réalisé un film et il n'était pas connu à l'époque. Elle fait confiance, elle y va à fond aussi. Elle est quand même assez incroyable là dans les années 70, qui correspondent à une période un peu de, je veux pas dire automnale, mais on s'achemine. Bon, la vie passe, la vie avance. Pour une comédienne, on sait que à part quelques exceptions, mais il y a toujours une période, voire plusieurs périodes qui sont difficiles, parce qu'il y a moins de propositions de rôles ou moins de rôles intéressants. Hein. À l'époque, le cinéma reste encore beaucoup une affaire d'hommes.
C'est pas si évident. Et Jeanne Moreau a une carrière, surtout une carrière qui a duré. Parce que même quand elle est devenue une femme mûre, elle avait encore des tout petits rôles, mais tout d'un coup, je prends Les Valseuses, il y a un quart d'heure dans Les Valseuses, elle arrête le film. On ne voit plus qu'elle. Tout d'un coup, ces deux lascars, Depardieu et Devers, qui sont deux jeunes, modernes, voyous, en même temps adorables, en même temps excités, tout d'un coup tombent sur elle. Elle est dans la rue avec son petit sac, elle vient de sortir de prison, personne ne sait. Il l'embringue dans la voiture, il l'emmène boire un café, s'habiller, il l'emmène au restaurant, mais toujours à la rigolade. Et elle mange, et il la regarde manger, parce qu'elle n'a pas mangé depuis longtemps, enfin, un bon repas au bord de la mer. Elle est déjà d'un certain âge, l'un des deux va coucher avec elle la nuit, et au matin, elle va se suicider. Et ce petit quart d'heure-là donne tout d'un coup aux valseuses une tonalité extraordinaire. Et c'est un film dans le film, pratiquement.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Toi, par exemple? Tu travailles?
Elle est mécanicien. Elle travaille dans un garage avec moi.
Ça marche?
Pas mal.
Ça vous dirait de coucher avec une vieille?
Ce sont les années aussi où elle passe derrière la caméra.
Exactement. Les mœurs ont changé. Il y a eu 68, faut pas oublier aussi. Et le passage à la mise en scène, ça n'a pas été un calcul, ça s'est fait naturellement. Il y a eu Lumière, qui n'est pas un film autobiographique, mais enfin, elle disait qu'elle, à l'époque, elle parlait de ce qu'elle connaissait, c'est-à-dire le monde des comédiennes, etc. Et dans la foulée, de la fin des années 70, L'Adolescente. Ce sont les deux films de fiction qu'elle aura tournés. À l'époque, il y avait très peu de femmes qui étaient passées derrière la caméra. Hein. Bon, Varda, évidemment, hein, qui était une pionnière, presque, en tout cas. C'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a eu des femmes d'autres époques, mais on pouvait les compter sur les doigts de la main. Anna Karina a réalisé un film aussi dans ces années-là. Elles font partie des femmes qui ont ouvert la voie, et très peu de temps après, ou à la même époque, il y a eu le film de Chantal Akerman. Donc c'était en mouvement.
Mais dans les années 80, elle revient au devant de la scène d'une façon différente.
Je pense que ça a vraiment été la période la plus... Je ne veux pas dire dur, je ne veux pas dire noir, mais enfin une période difficile. Son mariage américain avec William Friedkin, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quoi. C'était extrêmement difficile, elle est revenue en France, c'était ruiné pratiquement financièrement, mais il fallait, vous savez, quand on part 2 ans ou 3 ans, c'est pas qu'on est oublié, mais il faut revenir avec une énergie, etc. Donc, elle le fait. Hein. Elle joue au théâtre, bon, une pièce de boulevard avec du philo, l'intox. À cette époque, elle se lance aussi. Elle fait de la radio, des émissions consacrées aux grandes stars hollywoodiennes. Il y a des choses. Il y a aussi deux films qui émergent quand même dans les années 80-82. Oui, c'est le film de Fassbinder, Querelle, et La Truite de Lozay. Mais ça ne suffit pas à relancer vraiment la carrière, tout ça. Il faudra attendre 86 avec 3 tournages dans l'année, De Ville, Drache et Mocky, pour que les choses se relancent. Mais ça a été, là aussi, on ne peut pas évoquer cette période un peu particulière de où les choses semblent comme éclater, et ce qui va se présenter et ce qui va être un immense virage pour sa trajectoire, c'est quand même le récit de la servante Zerline en 86, mais ça aussi c'est la rencontre avec Klaus Michael Gruber. Il y a eu, là, c'était une des rencontres phares de sa vie. C'était la métamorphose absolue. Et c'était difficile au départ, elle disait qu'elle avait failli renoncer, et puis qu'elle y est allée, quoi, comme un petit soldat, comme d'habitude, quoi. Mais ça voulait dire presque recommencer tout, enfin, c'est incroyable. Et c'était très fort. Pendant 3 saisons consécutives, 3 théâtres différents à Paris, redécouverte.
Henry, now calm down.
Okay.
And stay calm.
Okay, okay.
Kiss me.
À partir d'un certain moment, le parcours de Jeanne Moreau donne l'impression qu'elle n'est plus seulement une actrice, qu'elle est beaucoup plus que cela. Elle devient presque un symbole. On fait appel à elle pour ce qu'elle est.
Oui, c'est vrai, c'est au-delà du métier. Enfin, elle n'aimait pas le métier d'ailleurs pour le comédien, comédienne. Elle disait que c'était un état, une manière de vivre. C'est vrai qu'on la demande beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est au-delà de l'actrice parce qu'il y a une intelligence toujours, il y a une sagesse, une façon de voir les choses qui peut bousculer, faire avancer, quoi. Elle était presque visionnaire aussi. L'état du monde l'intéressait beaucoup.
1999 was the year the Indian nuclear satellite went out of control. No one knew where it might land. It soared above the ozone layer like a leaf.
There's a car coming. Maisie.
Wim Wenders, pourquoi vous avez choisi Jeanne Moreau pour jouer dans Jusqu'au bout du monde?
Jusqu'au bout du monde était le film, disons, le plus important de ma vie, le plus ambitionné. Ça m'a mis 12 ans de le préparer et de financer et de l'écrire. Et le rôle le plus important dans ce film, c'était le rôle qu'a joué Jeanne. Parce que tous les films, ça parle d'une invention avec laquelle on peut faire voir une personne aveugle. On voit William Hurt qui joue le fils de Jeanne et il ramasse les images du monde entier. Et puis finalement, on voit la personne à laquelle tout cet effort est adressé, c'est Jeanne. Elle est celle qui reçoit ces images. Elle voit pour la première fois dans sa vie. Elle est déjà relativement vieille. Et elle meurt de ces images. Pour jouer une femme aveugle, j'avais besoin de la plus grande actrice que je connaissais. Et ça, c'était sans doute Jeanne.
We first met in Lisbon. I was 12, he was 14. We were running from the Nazis.
Je me rappelle comment elle est arrivée à Alice Springs, au milieu d'Australie. Je suis allé à l'aéroport pour la recevoir. Elle est arrivée avec 2 grandes valises, ce qui est normal pour une vedette de cinéma. Mais dans la plus grande valise, qui était vachement lourde, il n'y avait rien. Ce qu'on attendait, il n'y avait que des livres. Et pendant toutes les 4 semaines qu'on a passées dans le désert, elle a lu tous les jours, elle a lu.
Are you ready, my mother?
Yes, Sammy.
Quand Jeanne arrivait sur le plateau, toute l'équipe avait une autre attention. Et donc, la présence de Jeanne et la manière dont elle a joué cette femme aveugle, sa gentillesse avec tout le monde et son autorité naturelle, quand elle disait quelque chose, ça comptait. On avait par exemple pas mal de conflits avec William Hurt qui voulait toujours répéter. Et Jeanne était la seule qui a interrompu une de ses répétitions sans fin et qui avait dit « Écoute, William, nous on va tout aller au plateau maintenant et on tourne la scène et si tu veux nous joindre, tu es le bienvenu. » Et elle s'est levée et tous les autres acteurs se sont levés et on est allé sur le plateau. J'avais pas l'autorité de dire « on arrête de répéter ». C'était impossible avec William. Et travailler avec elle, c'était un énorme plaisir.
A person sitting by a window. Blue hair
La scène qui m'a le plus marqué, c'était la seule fois que j'ai filmé dans ma vie la mort de quelqu'un. Et la scène dans laquelle Jeanne Moreau meurt dans Jusqu'au bout du monde, c'était, je ne peux pas le décrire, c'était comme si j'assistais à la mort de ma mère, qui était encore bien vivante. C'était l'intensité de ce film et sa manière laconique et tout à fait simple de mourir devant la caméra. J'avais peur de cette scène parce que quand même, je l'avais jamais fait et quelqu'un qui meurt devant une caméra, ça peut quand même être tellement fou ou ça peut être trop dramatique ou ça peut simplement être une scène jouée. Et la manière dont elle a fait ça, c'était tellement émouvant et tellement simple surtout. La mort était tellement quelque chose de simple et presque normal. La manière dont elle a fait, c'était pas dramatique, mais c'était la mort. La façon dont elle a joué la mort, c'était la mort.
Look at her. What happened to your leg?
It's nothing, Mother. I want you to meet Claire.
C'est la profondeur de... La profondeur de jeu, rien d'extérieur, toujours en elle-même. C'est pas quelqu'un qui abordait les choses avec légèreté. D'abord, je dirais jamais que c'est une femme légère, à aucun point de vue. Elle était sérieuse, Jeanne. C'était quelqu'un qui prenait la vie au sérieux, la politique au sérieux, l'être humain au sérieux, les plantes au sérieux, l'écologie au sérieux.
Quel était, selon vous, son rapport au mot, au verbe ?
Elle avait un rapport très admiratif à tout ce qui était littéraire, à tout ce qui était agencement des mots, poésie. Par exemple, au théâtre, dans La Servante Zerline, elle était extraordinaire, d'un rôle très difficile, un peu austère quand même, et qu'elle interprétait munie de cet amour des mots. Et qui lui donnait aussi une autorité intime. C'était pas seulement la diction, mais aussi le rythme avec lequel elle osait parler. Elle osait la lenteur, elle osait les trous, elle osait la suspension. C'est pour ça, je pense, que Duras l'a tellement aimée, parce qu'elle était exactement dans la rythmique que Marguerite Duras avait elle-même créée en littérature. Et il y avait elle, il y avait Sérig, il n'y avait pas beaucoup d'actrices qui étaient capables de prendre ça en charge. C'est très organique. Elle avait une intelligence exceptionnelle du rythme, une intuition totale de la façon dont un texte devait être délivré d'un point de vue musical.
Je crois aux vertus du travail, de l'approfondissement, de... Je ne suis pas... Je fais... J'ai pas de carrière. C'est confondu avec ma vie. C'est un artisanat, si on veut. C'est un travail collectif. C'est pour ça qu'il m'est si difficile d'écrire. Parce que écrire, c'est quelque chose de solitaire. Alors j'écris, mais avec énormément de douleur. Oui, il faut être un très grand écrivain. Il faut être un très grand écrivain, tout est possible. Il est possible de tout dire à partir du moment où ça n'est pas que simplement exhibitionniste. Un grand écrivain, parce que le temps a changé. Il y a des grands livres que j'ai énormément de mal à relire, moi, comme Balzac, que j'adorais. Je fais comme tout le monde, je zappe comme on fait devant la télévision. Et le seul que, quand je relis, c'est Proust, je m'attache à tous les détails, parce que c'est une respiration courte et longue en même temps, d'asthmatique, et c'est important. Parce que, chaque vie est exceptionnelle, il ne s'agit pas d'être célèbre ou pas célèbre. Ce qu'il faudrait restituer à tout être humain, c'est cette idée qu'il est unique, que ce n'est pas une question de conditions sociales. Et il y a des gens qui sont plus ou moins armés, entre guillemets. Mais moi, je vois toujours cette lumière, même si elle est presque éteinte, chez tout individu. Et donc, un écrivain, quelqu'un qui veut écrire et qui veut partager, pas s'exhiber, mais partager une expérience de vie, ça ne peut qu'enrichir et ça devient une œuvre romanesque.
Même quand on écrit sur sa propre vie.
Oui, mais il y a une transformation. Regardez Cézanne, il disait les pommes, ce sont mes pommes. Mais ces pommes-là, tout le monde, vous pouvez les acheter, elles sont dans le mode saladier. Mais si vous regardez attentivement la peinture, elle reflète absolument le tempérament et l'évolution de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont peint ses œuvres.
Sa matière d'actrice, c'était son être, c'était elle-même.
Elle pensait qu'on est porteurs, les uns et les autres, de tout ce qui fait la nature humaine. Dans un sens, dans l'excès inverse, elle disait que c'était le mystère le plus grand. Je crois qu'elle n'en est jamais revenue. C'était vraiment quelque chose de très fort, mais qu'elle a senti très, très tôt. On revient à l'enfance, là aussi. Elle a compris les choses très vite. Ce qui animait les adultes, leur brouille, leur comportement, tout. Ce qui frappe quand on regarde des photos de Jeanne enfant, c'est le regard. Ce regard extrêmement curieux de tout, quoi, extrêmement profond. C'est comme, je sais pas si on parle de la préscience de certains enfants, mais si c'est, je pense, moi je suis assez convaincu que ça existe. Et elle avait ça. Préscience de ce qu'est la vie, le monde des adultes, le monde tout court, les vilainies, les horreurs, tout. Et puis les choses magnifiques aussi, c'est tout le registre entier.
Et l'amour?
Ah, l'amour, on en parle beaucoup, me semble-t-il.
Nous, ici, ou en général?
Partout.
Pourquoi on en parle autant?
Parce que justement, peut-être qu'il n'est pas là.
Est-ce que ça peut exister?
Bien sûr. C'est rare, mais ça existe, oui. Parce que très souvent, c'est confondu avec la passion. Je ne sais pas. Chacun pour soi, chacun a sa forme d'amour. Chacun le vit à sa manière. Il n'y a pas de recette.
Non.
Mais il y a peut-être beaucoup plus qu'on ne croit. Peut-être qu'il ne faut pas l'appeler comme ça. L'amour, c'est ça, oui. Recevoir et donner, recevoir et donner, sans rien attendre. Et même si on est séparés, l'émotion est là, quoi, comme si on venait de se quitter. Moi, je vis beaucoup avec mes morts, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, j'ai une grande compagnie.
C'est vrai qu'on est bien. C'est ça, la vie. On a des instants de bonheur, on croit que ça s'arrête. Et puis, il y en a un autre qui vient. Puis un autre, puis un autre, comme dans les feux d'artifice.
Mais dans l'autre vie.
Ah, l'autre vie. Ça t'a frappé, ça? Qu'est-ce que j'ai été te raconter avec l'autre vie?
Je suis content.
Tant mieux.
Tu me demandes pas pourquoi je suis content?
Tu voudrais que je te le demande?
Ben oui.
Quel était son rapport au temps?
Très fataliste. Oui, très fataliste. Je pense qu'elle avait, cette calamité complètement. Selon moi, elle a jamais essayé de lutter contre ça. Elle a même été au devant, même, je dirais. Il y avait quelque chose d'assez fataliste et peut-être un peu désespéré chez Jeanne, bien qu'elle était très très vivante, d'une vitalité incroyable tout le temps, mais en même temps un côté un peu sombre. Elle acceptait que le passé soit le passé, elle revenait pas dessus.
Je me souviens d'une fois où elle m'avait raccompagnée sur le pas de sa porte, puis elle devait être un petit peu fatiguée, elle avait eu, je sais pas, ou un rhume, etc. Et puis elle me regarde comme ça, et en souriant, elle me dit, mais c'est quand même incroyable, je vis comme si j'étais immortelle. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu de ça aussi.
J'avais l'impression que les moments que j'ai passés avec elle, tout seul, c'était toujours un grand bonheur de l'entendre parler, de sentir son regard. sur moi. Et en présence de grandes personnes, on devient vivant plus que normalement dans la vie. Et en voyant Jeanne et en la visitant, en tournant avec elle, j'étais plus vivant et j'étais plus là moi-même et j'avais d'autres possibilités dans moi. Sa présence demandait que tu vis à toutes tes possibilités.
Tant qu'on est dans la vie, tant qu'on est dedans, il est très difficile, et c'est pour ça que l'écriture, quand elle est quelque chose d'absolument nécessaire, doit être magnifique. Mais je pense pas qu'on peut avoir cette lucidité, parce qu'il y a toujours le cœur qui intervient, il y a l'intellect qui n'est pas d'une pureté absolue, il y a le corps, il fait froid, il fait chaud, on est sensible à des tas de choses.
Donc il y a beaucoup de choses
qui empêchent d'avoir une très grande lucidité. Alors peut-être qu'après la mort, who knows. Si. C'est intéressant, c'est quand même un grand mystère. Personne ne sait s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Je veux dire, il est aussi absurde de dire qu'il y a quelque chose que de dire qu'il n'y a rien. Il y a deux moments majeurs, c'est le moment de la naissance où on sort du ventre de sa mère, et puis l'autre...
C'est peut-être le plus grand mystère, l'autre.
Même le précédent, c'est quand même un drôle de truc, cette histoire.
Est-ce que vous croyez qu'on vient de quelque part quand on naît, ou qu'on naît à partir de rien?
Non, on ne naît pas à partir de rien, bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'y a qu'à regarder la nature autour de nous. Rien ne vient de rien. Vous plantez rien, il ne pousse rien. Ça, c'est évident.
On parlait tout à l'heure de cet ultime moment de la mort, etc. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui croient à quelque chose.
C'est un drôle de verbe. Croire veut dire accepter un point de vue, un lieu commun. Ah oui, je crois ce qu'il m'a dit. Non, moi, je ne crois pas toujours.
Vous espérez?
Non, j'espère rien.
Vous vous interrogez?
Non, je passe pas mon temps à m'interroger. Je fais attention au jour le jour, à chaque instant de la vie.
Le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle.
Attention, prêt? 1, 2, oh!
Jeanne Moreau, l'unique. Avec Yasmina Reza, écrivain, Gilles Jacob, ancien directeur délégué, président du Festival de Cannes, Jean-Claude Moirot, biographe de Jeanne Moreau, le cinéaste Wim Wenders et la voix de Jeanne Moreau. Prise de son, Bruno Mourlan, Yves Lehorse. Mixage, Delphine Baudet. Coordination, Christine Bernard. Attachée d'émission, Pascaline Bonnet. Un documentaire de Yorgos Archimandritis, réalisé par Anne Pérez Franchini.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet avec l'aide de Nemo Camus.